ils cirrhosent des problèmes alcooliques majoritairement chez les alcooliques, alors que maintenant c'est l'inverse. C'est vraiment lié à des problèmes métaboliques. Quantité effarante de fructose, du fructose liquide. Donc ça arrive en quantité massive au niveau de la veine porte dans le foie, qui vient vraiment créer une espèce d'attaque à main armée.
T'as quand même séparé les baies des autres fruits, t'as séparé les fruits des jus,
ouais.
Et t'as séparé tout ça aussi des produits ultra transformés qui contiennent oui. Du fructose.
Cette espèce d'insulino-résistance rampante, tu ne brûles pas plus tes graisses, parce que tu bloques la lipolyse. Le fructose, passé un certain stade de toxicité, qui est d'à peu près 20, et il est toxique. Donc il est obligé de faire quoi ? Ce qu'on appelle la de novo lipogenesis, donc fabriquer de manière nouvelle des lipides à base de fructose. Et puis aussi, il va fabriquer de l'acide urique, qui lui, l'acide urique en quantité trop importante, devient pro-inflammatoire en circulation.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode.
L'équipe de 1000% prend soin de sa santé et c'est avec Lucie. C'est clairement un outil qui est à 1000% aligné avec nos visions. Comprendre son corps en profondeur pour mieux agir au quotidien. Avec Lucie, tu as un accès à une analyse ultra complète de ta santé. Plus de 110 biomarqueurs analysés répartis sur 11 grands systèmes du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une prise de sang. Ils vont plus loin avec analyse urinaire, salivaire pour donner une vision vraiment globale. Il y a aussi une intelligence artificielle qui croise tes résultats, ton questionnaire de santé et même tes objets connectés. Et derrière, tu peux prendre rendez-vous avec un médecin si tu veux aller plus loin. Bref, c'est un outil pour comprendre, optimiser, suivre ta santé dans le temps. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement sur leur site lucis.life et en plus de ça, tu bénéficies d'un code de réduction avec le code PODCAST1000. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et retour au podcast.
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité. Un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Bienvenue sur un nouvel épisode de 1000%. On est encore très très heureux d'avoir Dr Ador aujourd'hui. Comment ça va?
Ouais, super, moi je suis toujours très heureux d'être avec vous.
Et on est avec Pierre de 1000%, c'est régalé. Hein
ouais, on a fait un super épisode sur la détox du foie. Et là, on va continuer sur le foie, syndrome métabolique,
stéatose hépatique. Il va falloir nous dichotomiser tout ça.
Ouais, le foie, c'est l'usine métabolique du corps.
Ouais, bah si tu veux, c'est comme je vous ai dit avant, quoi. C'est vraiment le chef d'orchestre de tout notre organisme. C'est lui qui reçoit le son en premier. C'est lui qui fabrique en fait la plupart des protéines, des enzymes, des facteurs de coagulation, qui transportent les hormones, qui transportent un grand nombre de molécules dans notre sang, dans notre circulation, qui communiquent avec les autres organes. On a plein de syndromes. Quand ton foie ne fonctionne plus, on a le syndrome hépato-rénal, syndrome hépato-pulmonaire, hépato-cardiaque. Enfin, je vais pas les détails, mais ça veut dire qu'en fait, dès que le foie va plus, il y a d'autres organes qui dysfonctionnent sur le dysfonctionnement hépatique. Donc, je pense que c'est vraiment maintenant un topic qu'on doit avoir en première ligne de mire, en fait, comme médecin. Parce qu'effectivement, la plupart des maladies maintenant métaboliques, bah, elles sont liées à un problème, à une dysfonction hépatique.
Et le foie, c'est un organe de stockage et qui va subir cette alimentation moderne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
En fait, le foie, non, c'est un organe de stockage pour 150 grammes de glycogène. C'est pas beaucoup, tu vois. 150 grammes de glycogène, c'est 150 grammes à 4 kilocalories par gramme de glucose. Ça te fait, tu stockes 600 calories, pardon, d'énergie dans ton foie. C'est très peu.
C'est pour comparé aux muscles.
Comparé aux muscles, oui, mais ça reste 400 grammes, tu vois. Donc c'est pas énorme. Mais c'est juste qu'en fait, justement, le foie, il est là pour adresser, c'est un peu le courrier.
Il régule.
La centrale d'adressage du courrier, d'envoyer, d'éliminer via la bile. Donc effectivement, il a un rôle super important. Il a un énorme métabolisme parce qu'il doit fabriquer tout ça. Donc c'est les cellules de Kupffer qui travaillent avec d'autres cellules autour, avec les canalicules biliaires pour envoyer éliminer via la bile, des canaux qui renvoient via la veine sous-hépatique dans la veine cave, puis ensuite dans le cœur. Donc en fait, c'est un organe qui reçoit une quantité de sang qui est énorme.
Et c'est l'organe métabolique parce qu'il va métaboliser les glucides, les lipides, les protéines.
C'est-à-dire que, en fait, il les métabolise, oui et non, mais surtout, en fait, il les met dans des molécules pour les adresser plus loin. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, si ton cerveau est en manque de glycogène, eh ben, ton foie, de glucose, ben, ton foie, il va faire de la gluconéogenèse ou de la glycogénolyse. Ça veut dire qu'il va libérer du glucose, des molécules de sucre dans le sang, pour maintenir ce taux de circulant de glucose dont on a besoin. Ou il va, par exemple, en mode de jeûne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en périphérie, tu vas faire ce qu'on appelle la lipolyse, donc tu vas ramener des acides gras au niveau du foie, que le foie va utiliser pour fabriquer les corps cétoniques, le bêta-hydroxybutyrate et puis l'acétoacétate, qui sont des corps cétoniques que le cerveau va pouvoir utiliser comme fuel. Il va utiliser les protéines, faire de la protéolyse pour utiliser des acides aminés pour ensuite fabriquer l'autre protéine. Enfin, c'est vraiment une usine à fabrication et à incinération.
La nouvelle maladie de civilisation, c'est cette stéatose hépatique qui maintenant porte un autre nom.
Ça s'appelait le NAFLD pour non-alcoolite fatty liver disease et ils ont changé ça pour MASLD, Metabolic Associated Steatoliver Disease, parce qu'en fait, c'est très bien qu'ils aient changé ce nom de non-alcoolique pour métabolique, parce que ça arrête de stigmatiser les gens qui avaient ce problème en disant « Ah ouais, en fait, t'es alcoolique parce que t'as un problème hépatique. » Parce qu'avant, c'est vrai qu'on voyait les cirrhoses et problèmes alcooliques majoritairement chez les alcooliques, alors que maintenant, c'est l'inverse. C'est vraiment lié à des problèmes métaboliques.
Et donc ce problème de foie gras, quelles sont les causes?
C'est le gras?
Non, c'est alors
c'est
non,
le foie.
C'est ça pourrait être plutôt principalement on va dire les glucides dont le fructose, mais je vais quand même pas dire que c'est pas le gras parce que tu vois si tu commençais de t'alimenter en buvant même si l'huile d'olive est super sain mais tu bois 4 litres d'huile d'olive, tu vas quand même développer une stéatose parce que c'est une surcharge d'accumulation de tissu graisseux. Mais effectivement, c'est prioritairement la cause, un excès calorique qui vient des sucres, notamment du fructose. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fructose, passé un certain stade de toxicité, qui est d'à peu près 20 à 30 grammes par jour, qui correspond en fait à une absorption des entérocytes, parce que je fais juste une petite parenthèse, sachant que vous êtes à 1000% et que vous faites du sport, c'est que le fructose, en quantité bien dosée, avec du glucose, il améliore en fait le transport du glucose dans l'intestin. Il permet une meilleure hydratation et apport d'énergie durant l'effort par en fait une stimulation meilleure des canaux.
Tout le rapport 2-1.
Exactement. Ouais. Puis surtout le fructose, il a un impact majeur sur la nutrition des entérocytes, donc des cellules qui jouxtent la barrière intestinale. Et qui justement à partir d'un certain juste à un certain stade c'est positif, mais au-delà, eh ben, ça devient toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fructose, ben, une fois qu'il n'a pas été métabolisé par l'entérocyte, il arrive en quantité assez importante au niveau du foie, notamment quand on boit des sodas, parce que c'est des grosses quantités liquides de fructose qui arrivent en dose massive au niveau de l'hépatique. Et quand le fructose arrive dans le foie, en fait, le fructose ne sait pas l'utiliser et il est toxique. Donc, il est obligé de faire quoi? Ce qu'on appelle la de novo lipogenesis, donc fabriquer de manière nouvelle des lipides à base de fructose, il est stocké sous forme de gras, et puis aussi il va fabriquer de l'acide urique, qui lui l'acide urique en quantité trop importante devient pro-inflammatoire en circulation, crée les phénomènes de goutte, vous avez sûrement entendu parler, mais il est aussi toxique au niveau cardiovasculaire. Et cette de novo lipogenesis, donc fabrication de nouveaux acides de nouveaux triglycérides, exactement. Bah, les triglycérides, en fait, le foie, il veut pas les accumuler. Parce qu'en fait, ça fait de la stéatose, justement. Donc, au début, il va réussir à les exporter. Donc, c'est là, par exemple, qu'on va voir.
Tissu adipeux.
Voilà. Tissu adipeux. Ben, là, dans la circulation, il y a ce qu'on appelle les apoprotéines. C'est des protéines qui transportent le gras. Parce que le gras, comme il est gras, il est liposoluble. Mm. Il peut pas circuler de manière libre dans le sang, qui est lui hydrosoluble. Donc, tu dois le transporter dans des molécules qui sont des apoprotéines.
dans lesquels il y a des triglycérides, il y a des protéines et il y a du cholestérol. Et c'est pour ça que quand on a un syndrome métabolique, on voit les triglycérides qui augmentent dans le sang et on voit aussi les LDL, ces particules de lipoprotéines qui contiennent du cholestérol et des triglycérides qui augmentent.
Donc le cholestérol n'est pas lié à une surconsommation de produits gras, même si forcément ça va y participer. Principalement, les glucides, dont le fructose, vont être une des causes principales.
Une des causes
principales. Ce serait trop facile de dire.
Mais quand même, c'est, alors, les gras, et de nouveau, ça, c'est un vaste topic, parce que tu vois, il y a des gras différents.
La charcuterie, c'est sûr.
Voilà, il y a les oméga 3, les oméga 6, les polyinsaturés. Les graisses saturées en excès, elles vont stimuler cette fabrication de lipoprotéines, quand même, pour un export. Et, en fait, inhiber, les récepteurs des LDL au niveau du foie. Donc, il va quand même y avoir une accumulation de graisse en circulation. Et là, c'est pour ça que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent, ouais, les graisses saturées, on s'en contre-tape, on peut manger plein. Allez-y avec le beurre sans ad libitum, c'est pas tout à fait vrai quand même.
Oui, c'est le bon sens, hein. Dans tous les cas, t'as nuancé, hein, sur le fructose, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais, à 20-30 grammes de fructose par jour, c'est
ouais, pas, tu vois, positif. je vous ai dit avant que je mangeais tous les jours des baies rouges, sincèrement, je sais plus trop, mais dans 100 grammes, je crois que t'as à peine 5 grammes de glucides, ou en tout cas de fructose, c'est rien du tout. Tu vois, 100 grammes de baies, c'est déjà beaucoup. Pour arriver à 25 grammes, ça fait 500 grammes. Et on sait que les baies, les fruits, c'est pas du tout la même chose que les fructoses ou les jus de fruits.
Tu vois? Là, il faut y aller.
Et il va falloir qu'on s'arrête là-dessus.
Là, il faut que tu...
T'as quand même séparé les baies des autres fruits.
Ouais.
Et t'as séparé les fruits...
Des jus.
Des jus,
ouais.
Potentiellement. Et t'as séparé tout ça aussi... des produits ultra transformés qui contiennent,
oui,
du fructose.
Eh oui, c'est pas la même chose. Non.
Comment on
non,
s'y retrouve?
Non, c'est pas du tout la parce même que chose. C'est fructose à chaque non, fois. Alors, tu vois, on pourrait se perdre.
Fructose, c'est fruit, non?
Mais oui, mais c'est ce que je viens de dire. Il y a une barrière. Il y a déjà un certain nombre de grammes qui est la dose par rapport au fructose, qui est environ de 20 à 25 grammes par rapport aux entérocytes qui sont capables d'absorber. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tout ce qu'il y a dans les baies. Il y a énormément de polyphénols qui sont très bons pour toi, qui sont très bons pour ton microbiome, qui, quand tu as un microbiome sain, tu produis moins de ce qu'on appelle les lipopolysaccharides, tu as moins de dysbiose, tu as moins de passage de cette lipopolysaccharide dans la circulation qui vient aussi affecter le foie. L'autre chose, c'est que les baies sont très pauvres en glucose, comme on disait, donc c'est pour ça que j'ai privilégié, parce que c'est l'apport de nutriments importants en ayant moins de calories. Donc évidemment, à rinquer. Par exemple, pour quelqu'un qui fait un jour où tu fais pas d'activité, tu fais mieux de manger des baies qu'une banane. Après, il y a des fruits qui effectivement qui sont très. C'est pas dire forcément qu'il faut pas les manger, mais il faut juste avoir conscience qu'ils sont plus riches en fructose, genre la mangue, genre tu vois les l'ananas, des trucs comme ça qui sont beaucoup plus riches en fructose, donc tu vas en manger moins. Donc là on est déjà dans les fruits qui sont pas préfabriqués. Puis aussi, faut pas oublier un truc, c'est que les fruits contiennent ces polyphénols qui sont les antioxydants qui mitigent un petit peu les méfaits du fructose au niveau hépatique, tu vois. Donc déjà là, on est content de dire, OK, les fruits, c'est pas dans le même panier que des jus de fruits, déjà.
Plus des fibres.
Plus.
La matrice.
La matrice, c'est ça. Mais après, le jus de fruits, en fait, en lui-même, si tu buvais, mettons, moi j'adore cet exemple parce que c'est assez facile. Tu manges une orange. Ça te prend un certain temps, tu la pèles. Tu vas pas en manger 12. Enfin, même une orange, ça te suffit généralement. Bon, tu prends un jus de fruits, un jus d'orange comme ça. T'as le jus de 4 oranges. Et c'est déjà énormément de calories. T'as plus les fibres. Et généralement, c'est quand même assez rare que les gens se pressent des jus. Donc, du coup, c'est des jus de fruits industriels. Et voilà, c'est jus de fruits. T'as quasiment autant de sucre et de fructose que dans un coca.
Et le fructose qui est rajouté dans les produits transformés, ouais, industrialisés, ouais. C'est encore une autre étape.
Bah, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire, c'est ce qui est même marrant de voir, c'est que, c'est pas marrant justement, mais un Coca-Cola en Europe, il a moins de sucre qu'un Coca-Cola aux États-Unis parce que eux rajoutent ce qu'ils appellent le sirop de maïs, là, le high sugar corn fructose syrup, là, dans lequel, en fait, t'as une quantité effarante de fructose, du fructose liquide. Et comme je vous disais, c'est quand c'est liquide, il n'y a pas de prédigestion à faire, ça arrive au niveau de la muqueuse gastrique, ça sort directement au niveau de la muqueuse gastrique, donc ça arrive en quantité massive au niveau de la veine porte dans le foie, qui vient vraiment créer une espèce d'attaque à main armée chez quelqu'un qui n'est pas préparé.
Et tu sais, la consommation de fruits, elle est aussi remise en question, principalement avec toute le mouvement autour de Glucose Goddess, qui a fait un livre qui, pour, je pense, le public général de conscience autour du sucre. Mais ce qu'elle raconte, c'est que les fruits qu'on mange ont été tellement hybridés par l'homme pour qu'ils soient plus sucrés, plus beaux, qu'on s'écarte en fait des fruits originaux qui avaient moins d'impact en tout cas sur notre santé métabolique.
Je suis d'accord avec toi sur ce phénomène. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'elle dit qui sont assez aberrantes. C'est quand même très très marketing, mais c'est genre le glucose va nous tuer. Attention aux vos spikes et tout ça, CGM. C'est pas vrai. Nous, on a besoin d'un spike pour avoir de l'insuline derrière, pour avoir le stimulus anabolique après un repas. Tu veux pas avoir des spikes qui sont prolongés, qui sont trop longs ou qui montent trop haut, mais après un repas d'avoir un spike, c'est normal. Donc si tu veux, c'est aussi faire un peu peur et puis c'est très vendeur. Et puis du coup, ça a mené à mon avis à des dérives et des faux messages. Faut pas oublier non plus qu'elle est pas médecin, qu'elle est, je crois, ingénieur de, qu'elle
biologiste,
elle s'est mis là-dedans dans un peu. Bon, voilà. Après, je vais pas la critiquer, mais oui, je pense que c'est
comme de partout, il y a des bonnes choses à prendre et le message global est un bon message. Après, bien sûr qu'il y a des dérives.
Ouais, et puis de dire après, je pense que c'est quand même très compliqué si tu manges que des fruits. À part ça, il y a des gens qui mangent que des fruits, qui sont sédentaires. C'est très mauvais. Parce que tu vois, il y a souvent les gens qui pensent que le fruit, tu manges un fruit isolément au petit déjeuner ou t'en manges plein. Moi, je pense pas que c'est ça.
Non, mais tu vois, naturellement, on se dit, faut manger nos fruits et légumes par jour. Ça a du bon sens. Mais quand on nous raconte cette histoire que les fruits qu'on mange les légumes qu'on mange sont complètement différents parce que ils ont été sélectionnés par l'homme et donc c'est comme si c'était des fruits pas ultra transformés mais peut-être transformés. Tu vois, il y a aussi où est-ce qu'on se place. Il y a des gens qui peuvent avoir un peu de retrait à reconsommer des fruits.
Non, bien sûr. Bah, quand en plus
où est le bon sens, tu vois.
On dit 5 fruits et légumes par jour. Je pense qu'on ferait mieux de dire 5 légumes
et un fruit.
Et un seul fruit.
Ouais, mais de nouveau, dépendant de qui tu es, de ce que tu fais, tu vois, si tu manges des fruits pendant que tu fais ton sport, comme je te disais, de nouveau, ce ratio de sur 1, tu auras du fructose, tu vas l'utiliser, tu vas le métaboliser. Si t'es assis à ce bureau, toute la journée, tu vas pas manger une banane, ça a pas de sens. Tu vas t'apporter, une grosse dose de, et puis, effectivement, où je la rejoins, c'est vrai que dans une banane, maintenant, actuellement, tu as plus beaucoup de nutriments. Par contre, t'as pas mal de calories.
Seulement 10% d'entre vous sont abonnés sur nos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre les 5 étoiles. Ça nous donne de la force pour la suite. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrienco, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Oui, c'est vraiment se connaître. On revient encore à l'ultra-personnalisation. J'ai une petite histoire, moi, avec une mangue. Donc je mangeais une mangue un soir et j'ai dormi dans le sucre, littéralement. Je suis jamais redescendu.
Parce que t'avais un capteur de glycémie, c'est pour ça.
J'avais un capteur de glycémie et il y a aussi le timing de quand on prend cette charge de sucre. Est-ce que ça a pas plus d'intérêt de manger cette mangue dans ma journée plutôt que avant d'aller me coucher? Enfin, tu vois, tout est un questionnement sur le timing. Qu'est-ce qu'on mange?
Que tu fais après le repas? Est-ce qu'il y avait une rando après le repas?
Voilà, c'est ça. Je fais souvent, tu vois, si je mange un peu des hydrates ou comme ça, je fais souvent une marche, tu vois, déjà, ne serait-ce que 10 à 15 minutes de marche dehors, ça lisse ta glycémie presque. Ouais. C'est-à-dire que ça blunte le pic et puis ça évite que tu sois hyperglycémique après. Je pense que ça a du sens. Et puis le fruit, effectivement, c'est le timing. Je pense que moi, je mangerai jamais un fruit directement à jeun. J'essaie les fibres d'abord, après du gras, après des protéines, après les glucides. Donc ça change énormément. Et puis derrière, quand même, tout ça, c'est l'exercice. C'est quand même si cette si tu veux, la notion calorie in, calorie out, elle est pas suffisante pour expliquer tous les processus de santé qu'on a. Il y a cette notion de la résistance à l'insuline qui est fondamentale. Et effectivement, pour rester insulino-sensible, il faut avoir suffisamment de masse musculaire que tu stimules pour utiliser l'énergie, mais aussi pour savoir où tu vas stocker cette énergie, parce que le muscle est l'éponge à sucre et l'éponge à nutriments, et pour ensuite permettre de garder une sensibilité à l'insuline au niveau hépatique.
On a reçu Anne Lucas, qui nous a parlé de santé métabolique, qui est prof au DUMAPS et qui nous a fait une masterclass sur cette santé métabolique, tout le rôle de la glycémie, de l'insuline. Mmh. Et elle a fait aussi un module sur le muscle, qui est un organe endocrine, métabolique. Ouais. Juste là, c'est très bien comme transition. Le fructose est quand même en dehors de cette réponse insulinique. Est-ce que tu pourrais nous reparler, nous resituer un petit peu ce fructose qui est pas détecté en fait par l'insuline?
Ouais, c'est juste parce qu'en fait, si tu veux, comme on disait, quoi, c'est vraiment le glucose qui fait monter ça. Après, il y a une voie des polyol pathways qui peut te permettre quand même de te retransformer le fructose en glucose. Donc c'est un petit peu plus complexe, de dire qu'il n'est pas tout à fait, il n'est pas vu.
Indirectement, il va augmenter la glycémie?
Ouais, ça peut. Ouais.
Ok.
Ça peut, mais après, effectivement, son problème fondamental, c'est qu'en fait, tu vas développer une insulinorésistance, en fait, par effet secondaire, du fait que, à la longue, en créant de l'adénovolipogénésis avec le fructose du niveau hépatique, tu vas rendre ton foie, en fait, tu imagines, t'as une cellule dans laquelle, normalement, t'as des processus qui se passent, et puis il y a un phénomène aqueux à l'intérieur de la cellule. Tu remplaces à l'intérieur de la cellule, tu lui mets des gouttelettes de lipides. Au bout d'un certain stade, Jason Fung, qui est un des spécialistes là, qui parle très bien de ça, je trouve que c'est vraiment, c'est, moi j'aime bien cette image qu'il donne, c'est l'image d'une valise. Tu pars en voyage, tu mets 5 chemises dedans, tu la fermes tout seul. Tu pars, tu repars en voyage, là tu veux en mettre 20 dedans, bon tu dois un peu bourrer, tu arrives toujours tout seul. Et maintenant tu pars en voyage, tu prends quasiment toute ta maison à l'intérieur, tu dois appeler des potes pour essayer de la bourrer, la fermer. Et ça, c'est, et les potes, c'est en fait plus de molécules d'insuline. Et c'est ça qui se crée au niveau hépatique. C'est-à-dire qu'avec une surcharge d'accumulation de gras, tu remplaces la place qui est normalement nécessaire à autre chose. Tout coup, la cellule, elle dit stop, moi, je peux plus rien agurgiter à l'intérieur. Donc, elle devient insulino-résistante pour se protéger.
Mmh.
Et en réaction à ça, si tu veux, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as cette espèce d'insulino-résistance rampante, tu ne brûles pas plus tes graisses parce que tu bloques la lipolyse. Et puis, gentiment, quand tu manges, en fait, ton glucose va s'accumuler. Donc, tu peux devenir insulino-résistant avec un glucose qui va augmenter en ayant consommé que du fructose.
Et plus tu crées de tissus adipeux, plus tu crées un signal pro-inflammatoire.
Mm-hmm.
Donc le cercle vicieux se met en place et
ouais, parce que t'as pas plusieurs mécanismes. Le foie, effectivement, le gras synthétise des adipokines, des molécules qui peuvent être inflammatoires. Le tissu adipeux, il sécrète l'interleukine 6 qui est pro-inflammatoire quand elle vient du tissu adipeux.
L'aromatase.
C'est ce qu'on appelle l'aromatase, pourtant de la transformation de la testostérone en œstrogène. T'as aussi deux molécules, ça s'appelle la leptine et la liponectine, qui normalement sont sécrétées. En fait, si tu veux, la liponectine, ça, quand elle augmente, ça te dit, ouais, il faut que je mange. C'est un peu le phénomène que tes stocks de graisse sont diminués. Puis la leptine, normalement, elle est sécrétée quand t'es en phase satiété, en rassasié. Mais quand tu commences à devenir obèse, tu développes une résistance à la leptine. Donc, en fait, t'as beau avoir beaucoup de leptine qui te dit, ouais, mais c'est bon, je suis bien en périphérie. Ton cerveau devient insensible à ça. Et c'est pour ça que c'est assez paradoxal. C'est là qu'en fait, au début, l'obésité, c'est un problème hormonal, mais après, ça devient un problème, comportemental, mais après, ça devient hormonal. Et ces gens-là, ils ont tout le temps faim. Alors qu'ils ont des réserves sur eux pour des semaines, voire des années.
Oui, c'est ça qui est troublant, qui est contradictoire, c'est que, par définition, ils ont tellement de réserves qu'ils pourraient les utiliser, mais ils ont plus la capacité d'accéder à ces réserves pour les métaboliser.
Exact. Ouais.
Et cette accumulation de graisse viscérale, c'est lié au fructose ou c'est quand même un gros indicateur d'une santé métabolique qui est mauvaise, voilà, cette graisse viscérale? C'est un premier indicateur.
Tu peux développer un syndrome métabolique en mangeant d'autres choses. Tu pourrais très bien développer un syndrome métabolique, on revient à ce qu'on disait par rapport à avant aux protéines. La protéine, les BCAA en excès, ça fait aussi, ils sont aussi utilisés au niveau du foie pour faire de la de novo lipogénésis. Parce que ils sont.
S'il y a une surcharge, qu'elle soit lipidique, glucidique ou protéique, quoi qu'il arrive, le corps va le stocker sous forme
C'est clair que si on devait choisir, ok, on est les quatre là, on se met tous à faire un régime hypercalorique et puis celui, on choisit un régime hypercarb, hyper fat et hyper prot. Bah, je pense qu'effectivement, celui qui mange plus de carbs, il va arriver plus vite à un syndrome métabolique. Parce que déjà, il aura beaucoup plus faim, donc il va arriver peut-être à manger beaucoup plus de calories que celui qui va se dire, OK, je mange que des protes. C'est d'ailleurs pour ça que ces régimes, par exemple, keto ou carnivore marchent, parce que l'appétit des gens diminue. Mmh. Et parce qu'en fait, ils ont plus fuite à un phénomène de satiété. Donc, je dis pas que le carnivore diet en phase de, par exemple, de traitement peut être intéressante, mais jamais comme régime à long terme.
Mmh. Et je me permets de faire un petit pont avec l'épisode qu'on a tourné avant sur la détox. Est-ce qu'un foie qui est surchargé de toxines va avoir du mal à remplir ses autres fonctions, ses fonctions métaboliques et les autres fonctions de stockage?
Oui, absolument. C'est pour ça le problème, c'est que moi je pense que chaque organe a un peu, si tu veux bien, une certaine quantité d'énergie durant la journée allouée à toutes ces charges. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, par exemple, d'être sain point de vue métabolique ou de faire du sport, parce que ça te permet de dans une certaine limite, ça t'augmente l'énergie que tu peux allouer à différentes fonctions. Et par exemple, tu vois, ce matin, on s'est vu, je t'ai dit.
Tu m'as parlé d'énergie,
courir.
Ouais.
Ben, je savais très bien que d'aller courir pendant une heure dans la ville, ça allait peut-être sur le moment m'apporter de l'énergie, mais que durant toute la journée, mes besoins cognitifs assez importants, ils auraient pu être entamés par ça. Parce qu'on sait, par exemple, c'est pour ça que la musculation est meilleure pour perdre du poids que l'entraînement en endurance, parce que la musculation, c'est pro-tissu. Donc, tu vas stimuler ton corps à fabriquer du muscle qui consomme beaucoup d'énergie pour le rendre, en fait, tu viens un peu métaboliquement...
T'augmentes ton métabolisme.
Tu viens métaboliquement inefficace. Alors que quand tu fais de l'endurance à outrance, ton corps, il veut perdre du tissu pour être plus efficace dans la course. Et l'autre chose, c'est que durant l'entraînement, tu consommes beaucoup plus de calories, mais on sait que sur une journée entière, c'est à peu près la même chose, voire même moins. Parce que le reste du temps, ton métabolisme va
diminuer. Tu bouges moins.
Exact. T'as fait 2 heures de course. Toute la journée, t'as envie d'être assis, t'as beaucoup moins envie de bouger.
Oui, tous tes petits mouvements parasites que tu feras dans la journée.
Ouais. Ce qu'on appelle justement la NIT. Tu vois, le fait de fidgeting, le fait de bouger, le fait de bouger ton mollet, tes jambes, de trémuler quand t'es assis, tu le fais beaucoup moins quand t'as fait de l'endurance. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire, parce que c'est très bon pour plein d'autres choses, mais faut faire un éventail de différentes activités, quoi.
Je fais un petit point avec le sport. Quand on va faire du sport, que ce soit de la musculation ou de l'endurance, on va être amené à changer un petit peu notre rapport énergétique, qui peut aussi impacter notre santé métabolique. Comment on se place par rapport à cette nutrition liée à l'activité physique?
Ouais, c'est une bonne question.
Tu vois, la consommation de gel, notamment.
Ouais, alors bon.
Mais de la banane, et en fait, on va être plus exposé à une charge glycémique.
Là, t'as plein d'écoles, t'as des gars qui disent.
C'est quoi l'école Adore?
Tu peux faire du keto pour faire de l'endurance. Ouais. Moi, je pense que l'école Adore, c'est de dire, moi, je suis smart carb. C'est-à-dire que je pense quand même qu'en endurance, on a besoin de carbohydrates. Parce qu'on fonctionne quand même mieux. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, où ça aide quand même. C'est-à-dire que si t'es en très, très bas régime, tu vas être en zone 2, tu vas faire de la lipogenèse. Tu vas faire de la lipolyse, tu vas brûler tes graisses, tu peux fonctionner au corps cétonique. Mais, y a un moment donné, tu vas quand même consommer des carbs. Ah, pardon, tu dois quand même consommer des carbs, tu vois. Et puis surtout, ça permet d'améliorer la récupération post-entraînement. Mais après, t'as des écoles de gars qui disent que t'as besoin que 10 grammes de carbs par heure d'entraînement. Parce que moi, je pense que c'est vraiment très peu, c'est vraiment peu suffisant. Tu regardes les cyclistes autour de France, ils carburent à Spogatka, ils carburent à 100, 120 grammes par heure.
Mais comment faire de la haute, voire très haute intensité en étant low carb toute la journée? Bon, c'est sûr que si t'as fait des repas chargés en glucides.
Puis ça dépend de la durée, tu vois. Si tu fais du Tabata pendant 20 minutes à jeun, c'est très bien. C'est même très bon aussi pour stimuler d'autres phases qui sont bénéfiques pour la longévité. Mais c'est clair, si tu fais, 3 heures de vélo en zone 5 à jeun, bah déjà, je pense que ça va être difficile. Tu vas pas trop aimer. Et puis tu vas prendre sur la récup, tu vas te cataboliser, en fait, tu vas brûler tes protéines, parce qu'il faut bien comprendre que ça dépend de quelle filière énergétique tu tapes. Tu vois, si t'es en très basse intensité, tu vas rester
en lipolyse,
et du coup, tu vas être capable d'aller chercher dans tes propres réserves. Mais si t'es en phase, t'as besoin de la glycolyse anaérobe, t'as besoin de ce fonctionnement qui est vraiment sur le profil des glucides, tu vas utiliser des glucides. Et puis après, quand tu n'as plus de glucides à bord, bah, tu vas, ton niveau va baisser. Tu vas commencer à brûler tes protéines. Et oui. La capillarisation musculaire et ta récupération va s'entamer. Et
Donc en fait, cet apport glucidique dans l'entraînement va nous protéger en fait de cette protéolyse qui pourrait être négative pour notre santé et notre longévité.
Faut être smart carb.
Ouais, moi je pense que
c'est bon ça. Hein. Et là pour nos auditeurs, quels sont tes conseils ou les petits points d'alerte pour se dire bah j'ai peut-être un trouble métabolique, j'ai peut-être un foie dysfonctionnel. Quels seraient les petits signaux à prendre en compte?
Bah, on parlait avant du CGM. Moi, je pense que c'est un très bon moyen d'aller comprendre, en fait, son alimentation. Parce que
c'est le moniteur à glycémie, ouais.
Le moniteur à glycémie en continu pendant 14 jours. Moi, j'aime le mettre 3 fois parce que ça permet, en fait, au début, t'observes, tu changes rien pour voir ce qui se passe. La deuxième te permet de comprendre les changements que t'opères. Puis la troisième, c'est un peu fact-checking, enfin un contrôle de ce que tu as fait, puis de voir si le protocole que tu appliques, il est bon. Je trouve ça assez facile, c'est pas très cher. Et puis après, ça va être de peut-être faire des imageries un peu, par exemple, on parlait du DEXA ou d'aller mettre en évidence cette graisse viscérale. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gens qu'on appelle les skinny fat ou les toffee en anglais, c'est-à-dire thin from outside et puis fat from inside. C'est vrai que c'est des gens qui paraissent lits, ils paraissent maigres, ils paraissent, tu vois, mais en fait, ils ont pas de masse musculaire, ils sont très fins, ils sont pas en surcharge pondérale, mais ils ont de la graisse viscérale. Et c'est vraiment un gros problème. Et
puis, il y a les 5 marqueurs du trouble métabolique, avec le tour de taille qui est le plus accessible. Taille,
la pression,
les triglycérides.
Les triglycérides, le HDL. Mm. Lequel on a oublié.
Bon, il y en a un 5e, vous irez chercher ça sur Google.
Et oui, prenez votre tour de taille.
Tour de taille, c'est le plus facile.
L'évolution, hein, ouais, du tour de taille, c'est le meilleur indicateur de ce trouble métabolique, oui.
Et l'enfant?
Et pour conclure, il va falloir qu'on le laisse parce qu'il est 36.
Ok. Pour conclure, l'enfant avec un foie gras, ça existe?
Ah ouais. Justement, c'est ça qui est grave.
C'est grave, ça.
C'est très grave. Maintenant, on voit des profils métaboliques chez l'enfant qu'on voyait jamais avant, qu'on voyait que chez l'adulte. On voit des prédiabètes, des diabétiques. C'est hyper important de s'y intéresser. Je pense que les parents ont un rôle éducatif à jouer là, énorme. Et après, aussi, des podcasts comme ça, d'avertir les gens, de les éclairer, d'éduquer, parce que c'est vraiment problématique. Quand tu vois un enfant qui est gros, c'est pas juste qu'il est gros, c'est qu'en fait, on s'intéresse à son problème qui est derrière métabolique sous-jacent, qui est vraiment un énorme problème. Tu vois, les chiffres qui montent, j'avais
c'est
parlé
une épidémie,
de 200
228 millions d'enfants obèses d'ici 2040 sur ton infographie là. C'est énorme. Et donc en fait, si on fait un mauvais résumé, en fait, on va avoir des enfants qui ont des cirrhoses du foie. On est d'accord que c'est pas une cirrhose alcoolique, mais
c'est la même c'est le même dégât. Non, ça va être il y a des gens qui vont être il y a de plus en plus de gens qui sont sur liste de greffe hépatique. Parce que comme je vous disais, c'est-à-dire le foie quand il dysfonctionne, c'est game over. Tu peux pas. C'est-à-dire ce qui est marrant, c'est que ce qui est fou,
c'est
il régénère.
Voilà, ce qui est positif, c'est qu'il est hyper régénératif jusqu'à un stade quand même assez avancé, fibrose comme ça. Mais après, tout à coup, c'est
quand
fini.
Quand il dit stop,
et,
ça va.
Voilà, et là, t'es sur liste de greffe. Et puis, j'aime me dire que la greffe hépatique, c'est pas une mince affaire. Hein. Déjà, il faut trouver un donneur. Il y en a pas beaucoup. Et la chirurgie hépatique, t'as des gros risques de mourir. C'est vraiment pas anodin, donc c'est très très important comme problème.
On conclut souvent par un conseil à 1000%, mais vraiment le smart carb,
ouais,
on le garde celui-là, non?
Eh oui, les glucides, ça se mérite.
C'est bien, ouais, c'est ça, ouais. Mais j'aime bien ce côté smart carb parce que c'est vraiment ça dit ce que ça veut dire, quoi.
Ben, c'est régalé, hein, franchement, voilà. T'es à 1000%, c'était vraiment vraiment génial.
Cool. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Comme je vous disais, je vous enverrai un lien de partage.
Oui,
en description.
On mettra tous tes liens de partage.
Puisque tu consultes, tu consultes et t'as...
Ouais, je consulte. Alors, vous verrez, justement, dans ce lien, il y a moyen de me consulter par visio. J'ai développé un questionnaire qui permet de bien comprendre les gens en aval et puis après de leur donner des conseils et puis discuter de ce qu'on discute là, mais de manière plus personnalisée. Et je développe une clinique de longévité à Lausanne. Où là, on ira plus loin, quoi. Ça sera du 1000%, mais moi, c'est ce que j'appelle, c'est le top 1%. Pour être dans le top 1% des biomarqueurs et de ce que tu peux espérer être à l'âge que tu as, tu vois. C'est ça qu'on veut. C'est vivre longtemps, mais vivre mieux, quoi.
et on a, vous pouvez regarder maintenant sur mon Instagram, on a changé, on a mis que chaque jour compte. Et moi, j'y crois vraiment, parce qu'en fait, finalement, chaque jour doit être beau et chaque jour a son rôle à jouer dans la façon dont tu vas évoluer plus tard.
Il faut être capable d'en profiter, en fait.
Ouais. Mais tu peux très bien profiter, tu vois, tout ce qu'on discute là, il y a rien de, c'est pas un parcours du combattant de manger sainement, en fait. Ça doit devenir un plaisir.
Ça peut faire peur, mais c'est aussi l'occasion de changer de vie et ouais, de s'accomplir autrement.
Ouais, et puis tu te sens tellement, enfin, je sais pas vous, mais je trouve que tu te sens bien, t'as des beaux contacts avec les gens, t'es mieux connecté à toi-même, t'es fier de toi, voilà, c'est, tout est positif.
On pourrait continuer encore longtemps, mais on va s'arrêter là. Ouais. Merci, Docteur Ador.
Avec plaisir, merci.
Merci beaucoup pour ton temps. Et ciao tout le monde.
Salut tout le monde.
N'oubliez pas les liens, les 5 étoiles.
Ouais, 5 étoiles, les likes.